Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Il est 7h39 sur Radio Classique. Rendez-vous avec les spécialistes éco ce lundi matin. Il y a Denis Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de Rexecode, Emmanuel Combes, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Enseignant à Schema Business School. Alors apparemment, Emmanuel Macron est sorti de ses gonds hier soir au dîner des 27. Ça se gâte autour de cet énorme plan de soutien de 750 milliards face au Covid. Alors de quoi seront-ils faits ces 750 milliards? Des prêts, des subventions, c'est cette répartition qu'il fallait trouver. On savait vendredi, de façon que ça serait compliqué, que les pays frugaux, Pays-Bas, Autriche en tête, Suède, Danemark, rejoints par la Finlande, ils étaient très méfiants sur cette idée de subvention généreuse, considérant que le dispositif profitera surtout aux pays du Sud, Italie, Espagne. Au fait, tiens, je parle de pays frugaux ou pays radins? Tiens, Denis Ferrand, allez-y.
Je dirais peut-être pays légalistes, parce qu'en fait, ce sont des règles de fonctionnement qui sont très différentes entre les pays. Et ce sont des pays qui sont très attachés à la valeur du contrat. Et de ce point, c'est ça qui, en fait, dicte aussi leur philosophie de politique économique. C'est-à-dire que pour eux, il y a des règles dans une maison commune, telle que l'Union européenne, et ces règles-là, ils ne veulent pas les voir bafouées. C'est ça qui, dans la philosophie politique...
Elles sont bafouées, ces règles?
Non, justement, ce qu'ils veulent mettre, ce sont précisément des règles par rapport à des subventions, d'accord. Parce qu'on change complètement de nature d'intervention. Une chose est d'avoir des prêts. Il y a aussi un budget européen, on le sait, qui fonctionne avec des règles qui sont établies. Et puis là, on augmente une contribution dans le budget européen en mettant en place des subventions. Ce que veulent voir les pays frugaux, radins ou légalistes, enfin appelons-les comme on veut, ce sont de voir mis en place des règles et notamment de pouvoir contrôler l'affectation de ces subventions. Donc c'est à la fois un débat sur la taille des subventions, aussi c'est un débat sur la capacité à contrôler ces subventions, d'où toute la question autour de l'état de droit. Et puis, in fine, c'est aussi une question de « give my money back » à la Thatcher, où, en fait, il y a une volonté de la part de ces pays d'avoir une sorte d'équilibre et un rabais un peu supplémentaire.
Au départ, sur les 750 milliards, les dons devaient s'élever à 500 milliards. Paris et Berlin ont décidé de les réduire à 400 milliards. Bon, les frugaux, les légalistes, tout ce que vous voulez, enfin les Néerlandais, les Autrichiens, ils disent on n'ira pas au-delà de 350 milliards. Emmanuel Combes, les Néerlandais, les Autrichiens, les Finlandais, ils ont vraiment tort de demander des garanties? Il faut des critères d'attribution?
Mais non, ça me semble tout à fait normal. Je rebondis sur ce que dit Denis à partir du moment...
Les Français, vous êtes les Allemands sont des légalistes aussi,
mais vous êtes dans de la subvention. La subvention, c'est bien l'idée du don. En contrepartie, je paye. C'est-à-dire, en clair, les Français vont payer pour les Italiens. Ça ne me pose pas problème en tant que tel, mais il est un peu normal que l'on ait des règles du jeu. Mais je voudrais rebondir sur la philosophie de ce qui est en train d'arriver. Parce qu'il y aura un accord, enfin, je le suppose. Tout le monde a intérêt à un accord. La question, c'est en effet...
Reprise des débats 16h.
Celle de la répartition. On est juste en train d'assister à la naissance du fédéralisme. Alors le mot peut faire un petit peu technique. Qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? C'est les pays qui vont bien payent pour les pays qui vont mal. C'est ce qui se passe aux États-Unis quand ça va très mal sur la côte ouest. Ce sont les États d'autres régions qui payent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu en fait un choc symétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une crise sanitaire? C'est des pays qui sont tous affectés par une pandémie. Ce choc symétrique s'est transformé en choc économique qui lui est asymétrique. En clair, il y a des pays qui ont mieux ou moins mal réagi à la crise. On voit très bien que l'Italie, l'Espagne ont particulièrement payé très cher cette crise par rapport aux pays du Nord. Eh bien, quand vous avez des pays qui n'ont pas les mêmes conjonctures, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? C'est comme une grande famille, comme le disait Denis. Ceux qui vont un peu moins mal payent pour les autres. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ça, il y a trois autres solutions. Or, elles n'existent pas, ces solutions en Europe. Premièrement, quand je vais mal, je dévalue ma monnaie. L'Italie ne peut pas dévaluer. Elle fait partie de la zone euro. Je baisse mes salaires. Compliqué, on le sait en particulier dans les pays du Sud. Je baisse mes salaires pour que mes exportations repartent. Troisièmement, des migrations, pour imaginer des migrations internationales. Les Italiens allant travailler en Hollande, c'est quand même très peu probable. Il ne reste plus qu'une solution. Soit la zone euro explose, soit on fait du fédéralisme. Mais à partir du moment où on fait du fédéralisme, il est normal que ceux qui payent, on sait très bien qui va payer à la fin, sont plutôt quand même les pays qui sont en moins mauvaise santé, exigent un certain nombre de règles du jeu. Ça me paraît tout à fait normal. La question, c'est celle du degré de contrôle.
Et du degré de contrôle, parce que ces pays du Sud, ils disent, attention, on va être mis sous tutelle, un petit peu comme la Grèce, lors de la crise de la zone euro, il y a 10 ans pile, Denis Ferrand.
Oui, tout à fait. C'est la question de la conditionnalité qui était associée à ce moment-là aux interventions. La crainte, c'était l'incarnation par la Troïka de la manière dont elle peut venir contrôler les choix d'affectation budgétaire que feront
FMI, BCE, etc.
Tout à fait. Et puis commission. Vous avez notamment le film Adults in the Room de Costa Gavras qui met très bien en scène justement ces aspects. Donc, il y a une volonté de à la fois de préserver l'indépendance, enfin de continuer à pouvoir faire ses choix, mais tout en étant dans une politique monétaire. Donc on est vraiment dans un, non pas dans un dilemme du prisonnier, mais on est dans une théorie des jeux qui, où vous avez de la confrontation qui s'effectue. Jusqu'où irons-nous dans justement le contrôle et le libre arbitre des choix budgétaires? C'est une question. Après, on peut aussi se demander, mais est-ce que c'est légitime que certaines économies achètent, par exemple, des avions militaires américains plutôt que de privilégier
notamment les pays d'Europe de l'Est.
Voilà, il y a aussi vraiment la question.
Et les Belges et les Néerlandais, justement.
On ne peut pas le réduire à une question budgétaire. Mmh. On a aussi, derrière le fédéralisme, peut-être à se poser la question de ce qu'est une entité économique, avec également, en pensant, la production. Parce que ce qui est en jeu, c'est la capacité à retrouver de la croissance.
Emmanuel Combes.
Ce qui veut dire que la conditionnalité implique des réformes structurelles dans les pays du Sud. Et pour le coup, je trouve que les Hollandais n'ont pas complètement tort de dire, écoutez, on va subventionner, on est bien dans le don, hein. On ne veut pas que les mêmes choses se reproduisent dans 10 ans, 20 ans, donc il faut des réformes structurelles. Et on les connaît, ces réformes structurelles dans les pays du Sud, elles sont très compliquées à mettre en œuvre. Ce sont essentiellement des réformes du marché du travail. Hein, on le sait, le taux de chômage, le taux d'activité relativement faible en Italie, structurellement. Donc ça me semble assez logique.
Prenez un peu le paradoxe, mais moi je me mets à la place des Espagnols, des Italiens, comme les Grecs il y a 10 ans. Est-ce que je me sens pas un peu humilié quand même?
Humilié, oui et non. En même temps, vous avez besoin des autres. Enfin, faut regarder quand même les choses en face. Vous avez vu les asymétries de non seulement de conjoncture, mais structurellement, les pays d'Europe n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Le taux de chômage est structurellement plus élevé dans les pays du Sud. On a fait en fait l'Europe avec des pays qui sont très dissemblables. Alors, il y a deux solutions. Soit ceux qui vont structurellement mieux payent systématiquement pour ceux qui vont mal, soit on demande à ceux qui sont en difficulté de se réformer.
De différents accès.
L'Europe n'a pas un problème de finances publiques, l'Europe a un problème de croissance, et tout particulièrement dans les pays d'Europe du Sud. Et pour cela, il faut réfléchir à des solutions qui ne soient pas que budgétaires.
Bon, on continue dans un instant d'en parler, le fonctionnement de l'Union européenne. On va retrouver Denis Ferrand, Emmanuel Combes, et puis on se posera une autre question. Tiens, est-ce que c'est au gouvernement ou au chef d'entreprise de décider si on doit retourner ou pas sur les lieux de travail en cas de poursuite de l'épidémie? Boris Johnson, lui, il a déjà tranché au Royaume-Uni. À tout de suite sur Radio Classique, 7h46.
Guillaume Bory, bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'AXA France. Un assureur peut-il vraiment aider ses clients professionnels à se relancer après la crise?
Oui, j'en suis persuadé. Vous savez, parmi nos 6400 agents et conseillers, il y a beaucoup d'indépendants, des chefs d'entreprise qui comprennent et vivent les problèmes de nos clients. Aujourd'hui, avec le programme Relance Pro, ils sont prêts à se remonter les manches pour aider tous nos clients pros à faire repartir le pays. Je pense notamment à cette entreprise textile de la Loire. Ils voulaient fabriquer des masques, ils ont été immédiatement soutenus par leur agent général AXA de Roanne, Jean-Cyril Descombes. Relance Pro, c'est aussi des aides financières exceptionnelles. Pendant la crise, on a annulé 2 mois de cotisation pour plus de 150 000 pros. Pour les clients qui décident de rejoindre AXA aujourd'hui, on leur garantit d'être moins cher que leur contrat pro actuel. Et ce n'est qu'un début. C'est une grande responsabilité d'être le premier assureur des commerçants TPE et PME en France. Alors je vous le dis, allez-y, mettez toute votre énergie dans la relance, car tout AXA est avec vous.
AXA.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur pro.axa.fr.
Dans un monde de plus en plus incertain, mieux vaut confier ses investissements à un expert de la gestion d'actifs. Chez Covéa Finance, nous gardons le cap avec un engagement. Répondre au mieux aux objectifs de nos clients et les accompagner sur le long terme dans un monde en pleine mutation. Covéa Finance, la société de gestion engagée à vos côtés. Retrouvez-nous sur covéa-finance.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Radio Classique, les spécialistes de l'économie.
Il est 7h48, on continue toujours avec nous. Il y a Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode, Emmanuel Combes, professeur à Schema Business School. Le blocage au sein de l'Union européenne, évidemment, autour de ce plan de 750 milliards d'euros. Je cite ce que dit le député, et aussi un ancien eurodéputé, Jean-Louis Bourlange. On a un plan porté par 80% des pays, 90% de la population, et les États qui bloquent représentent 10% de la population. C'est pas de la démocratie. Il faut sortir de l'unanimité. Ça pose cette question, le problème du fonctionnement de cette Union européenne, la règle de l'unanimité qui peut être bloquée justement par ce pays, les Pays-Bas, de 17 millions d'habitants, de différents.
On voit que la règle de l'unanimité, elle pose quand même des questions qui sont à la fois sur la définition de programmes comme celui-ci, mais également sur les choix fiscaux, par exemple, qui peuvent être effectués. Ce qui s'est passé la semaine dernière est tout à fait symptomatique. Ce qui s'est passé avec Apple. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce problème avec Apple? C'est parce que on ne peut pas s'attaquer à une réforme de la fiscalité, notamment celle de l'Irlande. Mais du coup, on a attaqué. Je pars sous le contrôle d'Emmanuel, qui est très spécialiste de ces questions. On a attaqué Apple sous l'égide des aides d'État qui pouvait être délivré par l'Irlande. Tout ça parce qu'en fait, c'était un faux-nez. On ne pouvant pas s'attaquer directement aux questions de la fiscalité, eh bien, on use d'expédients et de contournements.
Bon, donc,
mais ça montre bien justement la difficulté de cette règle de l'unanimité. Maintenant, est-ce que si on l'a fait sauter, est-ce que vous avez la même adhésion au principe européen? C'est quand même ça aussi la question qui est en jeu. Est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'y être attaché?
Emmanuel Combes.
La plupart des organisations fonctionnent sur le mode de l'unanimité. C'est quand même un principe démocratique. Alors, j'entends le point de Jean-Louis Bollange qui est de dire il y a 10% qui bloquent, certes, mais l'unanimité me semble être en même temps une source d'adhésion commune à la grande maison qu'est l'Europe. Je voudrais revenir sur l'idée qu'on emprunte quand même 750 milliards. Oui, oui. Ça doit faire à peu près 4% du PIB européen. Il va bien falloir les rembourser.
Qui ?
Alors, deux solutions. Soit l'Union européenne augmente, enfin la Commission augmente ses ressources propres par des taxes, la fameuse taxe numérique dont on parle beaucoup mais qu'on ne voit toujours pas. La taxe aux frontières, même chose, on en parle beaucoup, on n'est pas prêt de l'avoir. Ce qui veut dire que, in fine, ça veut quand même dire que les contributions des différents États vont devoir augmenter à terme. Donc, on comprend aussi qu'il y a un débat. Enfin, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait un débat dans la mesure où ceux qui payent ont quand même un droit de regard. Toute la question est de savoir. Le droit de regard, il ne porte pas seulement sur la nature des investissements, il porte aussi sur les réformes sous-jacentes. Alors, je le répète, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, si vous ne voulez pas que les mêmes conséquences arrivent, espérons que cela n'arrive jamais à nouveau, mais dans 10 ans, 15 ans, il faut faire des réformes structurelles. Je sais que c'est douloureux à entendre, mais enfin, on n'a pas tellement d'autres solutions.
Un mot pour terminer avec vous sur le port obligatoire du masque en France dans les lieux publics clos depuis ce matin. Est-ce que c'est un pis-aller pour éviter un éventuel reconfinement et là qui serait totalement nuisible à l'économie? On a vu comment l'économie s'est totalement arrêtée en mars, avril et début mai. Denis Ferrand à la tête de Rexecode, cabinet d'études économiques justement.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on voit le coût de ce type de mesure, donc c'est beaucoup plus de la prévention si vous voulez, que de la réaction face à une pathologie d'ores et déjà réinstallée. Donc c'est une démarche qui est responsabilisante. Maintenant, espérons qu'elle soit adoptée parce qu'effectivement, le coût est prohibitif.
Ouais, il ne faudrait pas que ça s'arrête à nouveau, hein, qu'on appuie sur le bouton stop de l'économie. Emmanuel Combes.
On n'a pas le choix, eu égard au coût qu'on a payé, qui était astronomique, hein. Le coût est à venir, en plus, n'oublions pas. Hein. On n'a pas le choix. Et dans ce cas-là, c'est au régalien de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de dire quelles sont les bonnes mesures et aux citoyens de s'y plier.
Boris Johnson, lui, il explique que ce n'est pas au gouvernement de décider si les employés doivent retourner sur leur lieu de travail. C'est une décision qui revient au chef d'entreprise, à compter du 1er août, donc dans 10 jours. Il laisse aux entreprises la responsabilité d'imposer le retour au bureau. Bonne ou mauvaise formule? Denis Ferrand.
C'est toujours très étonnant, parce que c'est l'État qui a décidé que ce n'était pas... les entreprises ne devaient plus accueillir leur personnel, et maintenant c'est l'État qui dit, bon, bah, écoutez, débrouillez-vous pour pouvoir les accueillir. Il y a une asymétrie, pour le coup, dans la période de confinement, dans la période de déconfinement. Le risque qui se pose, alors on le voyait notamment très clairement en France, je ne sais pas s'il en va de même au Royaume-Uni, mais en France, la question qui se posait, c'était le risque de judiciarisation des chefs d'entreprise s'il y avait un retour du personnel dans des conditions sanitaires qui ne seraient pas satisfaisantes, et le risque de se retrouver attaqué. Donc, si c'est pour réinstaller, si on substitue une incertitude économique très forte par une incertitude juridique tout aussi importante, on risque d'avoir le même type de blocage. Et surtout, c'est une déresponsabilisation de l'État, alors que c'est quand même... On est dans la première récession administrée de l'histoire. C'est ça qui est formidable.
Je comprends ce que dit Denis. Pour moi, c'est vraiment du régalien pur. Des mesures sanitaires, ça n'est pas d'une logique coût-bénéfice qui doit être décidée par le chef d'entreprise. On est dans le régalien pur, donc c'est à l'État de dire ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que pour éviter en effet des conséquences économiques dramatiques, on n'a pas d'autre choix, y compris d'aller vers des mesures relativement strictes. Donc l'idée de laisser à la main du chef d'entreprise finalement de déresponsabiliser l'État me semble pas la chose la plus efficace.
Et la rentrée, vous, chez Rexecode, comment vous la prévoyez justement? Et au final, cette année 2020 ?
Au final, on n'aura peut-être pas les chiffres aussi dramatiques que ceux que l'on pouvait avoir. Et quand on regarde les prévisions de croissance, elles sont en train d'être révisées plutôt à la hausse ou à une moindre baisse, à une moindre contraction que ce que l'on pouvait bien imaginer. Mais il est clair que ce sont des difficultés en termes d'augmentation de chômage, de défaillance d'entreprise. Ces difficultés-là sont devant nous, bien plus qu'elles ne se sont produites. Ne serait-ce que parce qu'on a mis sous cloche également encore jusqu'au 24 août les défauts de paiement des entreprises. Avec l'introduction de l'état d'urgence sanitaire, il y a eu aussi l'introduction d'un délai pour constater des défauts de paiement de la part des entreprises. Ce délai court jusqu'au 24 août. C'est à partir de cette date qu'on pourra s'inquiéter.
Non, même topo, défaillance plus chômage des jeunes. Malheureusement, le plus difficile est à attendre pour la rentrée.
Et comment réindustrialiser le... C'était les Échos qui racontaient ce matin justement que le gouvernement avait décidé 78 sites où les procédures administratives seraient allégées justement pour aller redémarrer quelques activités de différents.
Oui, c'est vrai que c'est un point qui est très important parce que dans les éléments de réforme, il y a effectivement la réforme du marché du travail, mais il y a des réformes qui sont relativement sans coût. Ce sont des réformes en termes de simplification. Et on voit que l'urgence, notamment au moment du confinement, pour la production de médicaments, pour la production de dispositifs médicaux, avait conduit à faire atténuer, c'est-à-dire un peu moins regardant sur des règles, sur des normes extrêmement draconiennes que l'on peut avoir au bénéfice de la santé globale.
Emmanuel ?
La réactivité, en effet, va être quelque chose de fondamental. Mais attention à ne pas trop surestimer les effets de ce genre de mesures. D'abord, il y a des délais de mise en œuvre. On ne sait pas, parce que vous décrétez,
effet... Comme ça, une sorte de
relocalisation,
zone,
que les entreprises reviennent. Il y a des délais, tout ça prend du temps.
Merci à tous les deux, merci beaucoup. Emmanuel Combes, enseignant à Schema Business School, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Il est 7h55, dans un instant, normalement, David Barou, le décryptage économique. À tout de suite sur Radio Classique.
Envie de confort, envie de choix, envie de grande marque. Envie de mobilier made in France. Envie de Topair.
En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les canapés Stainer, Duvivier, Burov, Stressless, Diva, Léolux. Vous allez adorer.
Espace Topair, Paris 15e, 3000 m² pour vos envies de canapés, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, métro Boussicaut, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr.